Dans le cadre des semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole et du cycle de conférences du mémorial de la résistance et de la déportation de la Loire, Radio Ondaine vous propose d'entendre le témoignage de Lucien Ravel, soldat rappelé en 56 en Algérie et un des fondateurs de la FNAA, devenue par la suite la FNACA, la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, à l'occasion d'une série de conférences sur la fin de la guerre d'Algérie.
Nous avons également besoin d'écouter les mémoires. Et les mémoires de la guerre d'Algérie, si vous ajoutez 20 ou 25 ans, ou 30 ans,
oui.
à 60, ça fait beaucoup. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'accueillir des témoins. Nous essayons de les rencontrer, pas seulement à l'occasion de conférences comme ceci, mais c'est difficile pour nous d'accueillir des témoins. C'est très important, mais c'est difficile. Nous sommes d'autant plus contents que M. Ravel, qui, il va vous l'expliquer mieux que moi, mais bon, est le président de nombreuses associations d'anciens combattants de la guerre d'Algérie, ait accepté de venir, de vous expliquer, non pas sa guerre d'Algérie, parce que...
Non.
Ça serait, c'est trop long, hein. C'est pas l'objectif que nous avons aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de le revoir dans d'autres circonstances, mais de vous faire comprendre comment la mémoire de la guerre d'Algérie s'est perpétuée jusqu'à nous et comment cette mémoire a été prise en main par les associations, certaines étant très importantes. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la présence de très nombreux porte-drapeaux lors des cérémonies officielles. C'est quand même encore très marqué dans la mémoire de nos anciens, et c'est quelque chose à laquelle ils tiennent vraiment beaucoup. Donc c'est important, cette mémoire. Donc vraiment, merci Monsieur Ravel.
Pas de quoi. C'est moi qui vous remercie. Bien, je me présente, je m'appelle Ravel Lucien. Dans quelques jours, je vais avoir 90 ans. Alors c'est tout de suite pour vous situer à peu près l'âge que j'avais. D'abord quand la guerre de 39-45 a éclaté, et puis la guerre d'Algérie. Je veux revenir un tout petit peu en arrière avant de présenter les associations, parce que il y avait un contexte à l'époque que j'aimerais rappeler. Voilà quelques dates. Tout d'abord, je reviens vraiment en arrière, de janvier 53 à juin 1954, à fin juin 54, j'ai eu le grand plaisir de faire tout mon service militaire en Algérie. Et croyez-moi, quand je suis revenu, j'avais un sentiment très agréable de ce que j'avais vu et de ce que j'avais fait en Algérie. Ce qui a changé par la suite. Le 28 juin 1956, les gendarmes sont passés à la maison pour me dire que j'étais rappelé. J'ai été chercher ma feuille de rappel à la gendarmerie qui, à l'époque, était rue Bergson. C'est vieux. Et début juillet 56, je suis parti pour le Val d'Aon d'abord, en premier, où je suis resté quelques jours. Et puis, du Val d'Aon, on nous a transportés par train jusqu'à Marseille. Et donc, en juillet 56, j'ai débarqué à Alger, que je connaissais déjà, et on s'est retrouvés embarqués dans différents coins, dans différents secteurs. Et là, je suis resté jusqu'à fin janvier 57, parce qu'à l'époque, je n'étais pas marié, et en décembre 56, le gouvernement avait décidé que tous les hommes mariés qui avaient été rappelés et qui se trouvaient encore en Algérie rentreraient chez eux pour passer les fêtes de Noël et de fin d'année dans leur famille. Ce qui fait que pendant presque un peu plus d'un mois, on s'est retrouvé en effectif vraiment très restreint. Et croyez-moi, ceux qui étaient nos adversaires le savaient et ne nous ont pas ménagé. Ça, c'est autre chose. On en arrive en 57. Au mois de mai ou juin, là, la date me fait un petit peu défaut. Il y a des organisations de jeunes, les jeunesses communistes françaises, la JOC et JOCF, les jeunesses ouvrières catholiques, masculines et féminines, JOCF, ont organisé une manifestation à la Bourse du Travail pour, en demandant à des rappelés de bien vouloir dire ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient vu en Algérie. Bon, ça a été le premier point de départ, parce qu'on commençait à s'apercevoir que la guerre d'Algérie était très, très, très méconnue. Et c'est ce qui nous a le plus frappé quand on est rentré en France, aussi bien les maintenus que les rappelés, c'était de voir l'indifférence qu'il y avait et la méconnaissance de ce qui se passait en Algérie. Donc, ce soir-là, à plusieurs, on a expliqué ce qu'on avait vu. En gros, on n'a pas donné de détails de ce qu'on avait fait, mais en gros, ce qu'on faisait, comment on occupait le temps, et ce qui se passait en Algérie. Et après la réunion, il y avait un quart de police qui attendait les quelques gars qui avaient parlé de la guerre d'Algérie, et ça nous a valu de passer quelques heures sous ce qu'on appelait à l'époque l'homme de bronze, qui était l'hôtel de ville. Et en dessous, où il y a actuellement des galeries, il y avait l'homme de bronze, il y avait où on était les gars qui avaient fauté. On n'est pas resté longtemps, hein, on n'a pas été maltraité ni quoi que ce soit, mais enfin, ça nous a valu de faire un petit séjour sous l'homme de bronze. Et puis, on a continué à Saint-Étienne, il y avait un comité des rappelés maintenus. On n'était pas nombreux, mais enfin, on essayait d'être actifs. Et puis, fin d'année 57, on a commencé à parler d'une première réunion qui aurait lieu fin janvier 58, où on essayerait de commencer à constituer une association nationale. Alors, ce ne sera pas les appelés maintenus. Au départ, ça s'appelait la NAA, l'Association Nationale des Anciens d'Algérie. Bon. Avec un autre camarade de Saint-Étienne, on a répondu présent et on s'est présenté. Ça s'est passé vraiment en sous-sol, dans un hôtel, mais c'était pas tellement agréable. Et on a essayé de s'entendre et de créer une association nationale. Bien sûr, à Saint-Étienne, on a créé un comité local, comité de Saint-Étienne, de la NAA. Là aussi, on a fait des manifestations, et en particulier à la Bourse du Travail, qui malheureusement est arrivée tout de suite après le 15 mai 1958. C'était le vendredi, et là, c'était le mercredi qu'il y a eu le 15 mai. Moi, avec la famille, je suis parti le jeudi, c'était le jour de l'Ascension, et mon frère avait des petits-enfants. On est parti à Lyon pour aller au parc de la Tête d'Or. Et une nouvelle fois, quand on est descendu du train en revenant, eh bien, il y avait encore un car qui nous attendait, qui m'attendait personnellement, et on m'a dit, bon ben, monsieur, vous allez venir avec nous, parce qu'on ne voudrait pas que vous partiez en Algérie. Moi, j'étais un petit peu dépité en disant, mais je n'ai pas du tout l'intention de partir en Algérie. Ah oui, mais on ne sait pas, comme vous avez connaissé pas mal de monde. En effet, j'avais eu l'occasion de rencontrer le maire d'Alger, d'avoir à l'époque, comme, non pas ami, mais enfin, connaissance, Jacques Choustel. Bon, et Lucien Neuwirth, qui se trouvait en Algérie, lui. Donc, on m'a demandé de rester quelques temps, et puis après, bon, ben, j'ai été libéré. Et puis, ça a suivi son petit cours de chemin, et en septembre 58, avec un autre camarade, nous avons été à Paris, en train, bien entendu. On n'avait pas d'autre moyen de locomotion à l'époque. et on a créé la FNA. Il y avait trois associations qui sont mises d'accord pour créer la FNA. Les premières initiatives sont venues de Fromenteil et puis de Paul de Biesse. Et comme c'était deux personnes qui ne voulaient pas prendre les responsabilités, ils ont demandé à Jean-Jacques Servan-Schreiber d'être le premier président de la FNA. Servan-Schreiber a accepté, et pendant 4 ans, jusqu'en 1962, il a accepté de diriger la FNACA. J'ai parlé de Paul de Biesse parce que c'était un bon camarade, et en plus de ça, il avait des grosses difficultés de vue, parce qu'il avait été, disons, il avait eu des ennuis avec un lance-flamme. Et il avait les rétines un petit peu abîmées. C'était malheureusement, quelques années après, il est devenu complètement aveugle, et il a donc abandonné le secrétariat de la FNA. Et c'est à ce moment-là qu'un autre homme, et un grand bonhomme, a pris la place. Il s'agit de Maurice Icard. Maurice Icard a été pendant très longtemps le secrétaire général de la FNACA. C'est lui qui préparait toutes les interventions auprès du gouvernement, auprès des députés. Il a fait beaucoup de choses, il a beaucoup lutté pour que la FNACA grandisse. Et je reviens un petit peu en arrière, en 1958, ce qui nous a décidé à monter ces deux associations, c'est qu'on s'était aperçu que ceux qui revenaient d'Algérie, il y avait une grosse différence, parce que nous, les rappelés, on avait le droit de pré-embauche. Quand on rentrait du rappel, on était systématiquement repris dans l'usine où on travaillait. Par contre, les maintenus, quand ils rentraient chez eux, ils n'avaient pas le droit à l'embauche. Ils n'avaient pas priorité. Il a fallu que l'on se batte avec acharnement pour faire admettre que les maintenus aussi avaient le droit à retrouver le travail qu'ils occupaient avant de partir. Ça a été un premier point de départ. Et puis, au fur et à mesure que les gens rentraient, on s'est aperçu qu'il y en avait qui étaient mutilés, d'autres qui avaient des séquelles mentales. Ça a été dur à supporter. Et personne ne voulait s'en occuper. Car les anciens combattants de l'époque, ceux de 39-45 et ceux de 14-18, traitaient les anciens d'Algérie de soldats d'opérette, de retour de colonies de vacances, ce qui fait qu'il y avait, disons, vraiment une grosse amertume de notre part vis-à-vis de toutes ces considérations. Et c'est tout cela qui nous a amené à créer ces deux associations. J'ai fait partie du premier conseil national de la FNA. C'est pour ça que l'on considère que j'ai été membre fondateur, un des membres fondateurs de la FNACA et de la FNAA, puis en 1963, c'est devenu la FNACA. On a ajouté le mot combattant. Voilà en gros quoi, ce qui s'est passé, ce qui nous a amené à créer des associations. Le groupement des rappelés et maintenus, c'était tout à fait amical. Ensuite, l'ANA qui a essayé d'être un peu plus grande que tous les comités qui pouvaient exister, de rassembler ces comités. Et puis finalement, la FNA qui était la première association à s'occuper des anciens d'Algérie, que ce soit des appelés ou des rappelés ou des maintenus. Notre travail à ce jour n'est toujours pas terminé. Nous avons toujours quelques petites revendications vis-à-vis de l'État. Et puis, il a fallu beaucoup de temps pour qu'on admette que les anciens d'Algérie étaient des combattants. On nous a d'abord accordé un premier diplôme. C'était le titre de reconnaissance de la nation, le TRN. Ça, c'est arrivé, il m'abuse, c'est des années 75 ou 76. Et puis, en 78, on nous a accordé la carte du combattant. Et là aussi, il y a un petit passage. Parce que, la carte du combattant, certains auraient voulu que ce soit une carte spécifique des anciens combattants d'Algérie. Et nous, à la FNACA, on a dit non. Si on a la carte du combattant, c'est la carte chamois, puisqu'à l'époque, c'était la couleur de la carte, ou ce ne sera rien du tout. Et quand il a fallu attribuer les premières cartes du combattant à Saint-Étienne, dont je faisais partie d'ailleurs, j'étais dans les premiers à recevoir la carte du combattant, on a eu une réunion en préfecture. Et le préfet de l'époque disait, on va faire ça dans la cour d'honneur de la préfecture. Et là, je représentais la FNACA, la FNA, et j'ai dit non. Si ce n'est pas place d'Hôtel de Ville, nous n'y participerons pas. Finalement, les autres se sont mis de mon avis, et la première, les premières médailles de la Croix du combattant ont été remises place d'Hôtel de Ville en 1978. C'est là où on a remis les premières Croix du combattant aux combattants d'Algérie. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Mais je vous remercie tous et toutes, surtout de votre attention. Ça fait plaisir d'être devant un auditoire aussi attentif. Maintenant, si vous avez des questions à me poser, je suis encore à votre disposition pour y répondre. J'ai encore quelques forces.
Oui, vous avez évoqué une réunion à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, donc à l'appel d'organisation de jeunesse. Si vous pouvez en dire plus justement sur ces mobilisations de la jeunesse à Saint-Étienne par rapport à la guerre.
Oui, les jeunes, c'est vrai, s'étaient mobilisés pour faire comprendre à la population qu'en Algérie, il y avait, moi je ne parlerai pas d'atrocité, mais qu'il y avait des actes qui avaient été faits et qui avaient été commis et qu'on avait connu vraiment une période de guerre avec des combats, avec des embuscades. Et c'est ça que les jeunes, aussi bien les jeunesses communistes que la JOC et JOCF, ont voulu que l'on vienne témoigner. Je dis bien témoigner de ce que l'on avait vu et fait en Algérie. Donc la jeunesse était beaucoup plus proche de nous que l'ensemble de la population.